musée hein, qui démarre donc en 1999, qui est une phase particulière, donc qui est la phase qui concerne la reprise en main par le conseil général de la Drôme du musée. Hein, un acte est signé en septembre 1999. Et cette transmission au département de la Drôme vient finalement marquer quand même plusieurs années de discussions assez soutenues. Céline a évoqué, peut-être Maurice, la perspective d'un musée national. La construction du mémorial qui peut être vue comme la conséquence de ces relations particulièrement compliquées entre la Pissierella et l'univers des anciens combattants. Pour reprendre ce qu'exprimait Gilles Vergnon, la plupart des musées de première génération sont devenus ensuite des musées de deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils ont été repris en main par des puissances publiques, modernisés, transformés, avec une scénographie beaucoup plus moderne. C'est le cas de la plupart des musées de la première génération qui sont aujourd'hui des sites majeurs de l'histoire de la résistance en France. On peut citer Grenoble, on peut citer Lyon et bien d'autres. Et cette évolution naturelle d'une reprise en main par la collectivité n'a pas eu lieu à Vassieux, puisqu'à Vassieux, la particularité, c'est que du fait de ces relations complexes, un deuxième site a été créé. Alors le mémorial qui est emblématique des musées de la deuxième génération. Mais du coup, pendant assez longtemps, deux sites ont coexisté sur Vassieux. Un site, l'archétype d'un site de la première génération, et puis le mémorial qui était lui l'incarnation d'un site de la deuxième génération. Donc c'est des circonstances locales assez particulières. Et donc 1999, le département de la Drôme reprend la propriété de ce musée de la résistance de Joseph Lapissierella. Et ça c'est effectivement, c'est le terme d'années de discussion et de tractation. Je crois que Céline l'a évoqué, à un certain moment dans les années 90, Joseph Lapissierella a eu le projet de transférer le musée de la résistance à Saint-Nizier-du-Moucherotte. On a dans les archives deux ou trois classeurs de correspondance, parce que justement, alors à la fois pour des raisons liées à l'extrême mésentente qu'il a avec Jacques Roux, le maire historique de Vassieux après-guerre, hein, qui reste maire pendant 36 ans, et qui est en plus à l'époque conseiller général, et puis aussi avec l'argument de dire on sera à proximité du bassin grenoblois, donc potentiellement avec davantage de visiteurs. Donc tout cela n'aboutit pas. Il y a un certain nombre de changements politiques, à mon avis, dans les années 80-90. Jacques Roux n'est plus maire, n'est plus conseiller général non plus. Et je pense que ces circonstances politiques locales font que les choses se décrispent un peu. Et donc en 1999, c'est le conseil général de la Drôme qui reprend en main le musée de la Résistance. Donc voilà, deuxième série d'interventions maintenant donc avec les agents du département hein, qui vont pouvoir apporter quelques témoignages sur la façon dont le département a repris en main donc cet équipement à partir de 1999. Karine, je te laisse te présenter.
Bonjour à tous, je suis Karine Marant, je suis donc chargée de collection de musées au service de la conservation du patrimoine de la Drôme, qui est un service de la direction de la culture qui appartient au département de la Drôme. Comme l'a très bien dit Pierre-Louis, le musée est racheté en 1999 par le département. Donc pour être très, très rapide, en 1994, le mémorial de la Résistance est inauguré en grande pompe. On est dans un fort courant mémoriel, notamment je pense à l'inauguration aussi de la cour des fusillés à la chapelle. Les jardins de la mémoire qui ne sont plus visibles aujourd'hui, voilà, qui était une œuvre sculptée par Saunier, mais qui a été déménagée pour des raisons de conservation. Donc il y a une volonté du président à l'époque, Jean Mouton, c'est vrai, dans cet élan, d'avoir un musée départemental de la Résistance dans le Vercors. Et dans ce contexte, il confie donc à la direction de la culture et en l'occurrence donc sous l'impulsion aussi de son DGS, donc il confie donc une mission qui va consister dans un premier temps pour nous les agents départementaux, donc à l'époque c'est mon collègue Pierre Sapé qui s'en charge de dresser une liste plus ou moins exhaustive de la collection du musée en vue d'une acquisition potentielle. Donc cette liste, elle est mise en œuvre donc, pendant quelques mois. Il y a un rapport qui a été édité en 1996 et qui va permettre à un moment donné de pouvoir dégager les lignes de force de cette collection qui ont déjà été évoquées précédemment. Donc c'est sûr que quand un établissement privé comme le musée, il y a voilà, un intérêt pour donc, un département, une institution publique en fait, à ce qu'il devienne ce qu'on appelle un ERP, un établissement sans but public. Donc on est dans une démarche où voilà, on change aussi de paradigme, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble en fait, de, comment dire, de discours et de scénarios qui vont être réenvisagés. Et en 1999, au moment de l'acquisition du musée, donc s'enchaîne sous l'impulsion du conservateur départemental donc la volonté donc de mettre en place une nouvelle muséographie. Alors, il faut savoir qu'au département il y a un point de crispation qui fait que le musée ne trouve pas, en tout cas en la personne de Jean-Pierre Couraine, le conservateur à l'époque à la conservation du patrimoine, un écho suffisant pour qu'il se lance dans l'aventure. Pour lui, la lecture en fait du musée est trop partisane, donc il ne veut pas y être associé. Et ce n'est qu'en 2005 que voilà, le musée va prendre, avec le recrutement d'ailleurs d'un jeune historien, donc va prendre voilà, un nouvel élan, et notamment sous l'impulsion du nouveau conservateur qui arrive à la conservation, Christelle Burgard, en 2003. Donc à partir de ce moment-là, nous, notre travail, donc en l'occurrence moi, chargée des collections, c'est d'organiser en vue d'un nouveau discours, un ensemble de mettre en place un process, la mise en œuvre, c'est-à-dire passer sur une opérationnalité qui va permettre d'avoir donc des listes d'objets qui vont permettre d'être raccordés à des grandes thématiques. Et c'est pour ça que nous, donc ensuite, lorsqu'on commence à travailler, on fait ce qu'on appelle un inventaire des collections, ou plutôt un récollement, c'est-à-dire qu'on pointe chaque objet, on le numérote, on le note sur un listing informatisé à l'époque, que ce dénombrement méthodique, laborieux, mais nécessaire, permet de tracer en fait, l'identité des collections dont on peut dire, et comme l'a très bien souligné Gilles, qu'elles sont effectivement, en tout cas au niveau de l'armement, la proportion des armes est la plus importante dans les collections. Ensuite, donc, puisque Pierre-Louis va enchaîner sur la muséographie, ces lignes de force, cet inventaire, ce récollement, il nous permet donc de travailler donc sur ce qu'on appelle une programmation muséographique qui va nous aider à concevoir, ou plutôt à réenvisager le discours et la manière dont vont s'exprimer les collections à travers des discours, et pour le coup un discours moins partisan, avec donc un parti pris qui va être celui des trois temps forts qui scandent aujourd'hui la visite du musée, qui sont donc le maquis avant, plutôt le Vercors avant le Vercors, le maquis et l'après. Et c'est vrai que c'est aussi ce changement de vision qui marque le pas de ce musée dont on pourrait dire qu'il s'inscrit dans la perspective des musées de seconde génération. C'est ça? Tu confirmes? Voilà. Donc il faut savoir qu'en parallèle de tout cela, quand on construit la programmation d'un musée, ou plutôt qu'on réenvisage un nouveau musée, on fait monter en puissance aussi donc, des prérequis qui sont évidemment alors, le recrutement des personnels adéquats, la personne de Pierre-Louis, mais aussi l'organisation de la boutique. Donc là, c'est une vraie révolution, hein, c'est-à-dire qu'on y met des livres, cette fois-ci avec un panel de titres plus large que ceux qu'on peut y trouver. On crée ce qu'on appelle une programmation culturelle avec de premières expositions un peu timides en partenariat avec l'Isère et puis ensuite avec les archives départementales, voilà, sur des thématiques comme la libération de la Drôme. Et puis bah, aujourd'hui, voilà, l'exposition, la programmation, elle est prise en main complètement par le musée. Et puis surtout, même on travaille à ce qu'on appelle un programme scientifique et culturel. Donc c'est la seconde étape qui va permettre d'envisager donc les nouveaux sujets et surtout les futurs contenus scientifiques vérifiés et qui vont s'inscrire dans une démarche de restitution au public, cette fois-ci peut-être plus éclairée, moins partisane et peut-être plus ouverte aussi.
Merci Karine. Alors je propose peut-être qu'on enchaîne rapidement et que je dise quelques mots sur la rénovation de 2010, hein, puisque ce qui a été proposé en 2010, donc un nouveau parcours muséographique. Et il faut bien voir la refonte de 2010 comme une refonte de transition. On peut considérer que la muséographie actuelle, c'est vraiment un musée de transition. Trois éléments de contexte à avoir en tête quand on évoque, quand on se replace dans le contexte des années 2008, 2009, 2010, en amont des travaux de rénovation. Premier élément de contexte, c'est un contexte juridique et relationnel compliqué pour le département de la Drôme avec la Piscirella, ça ne vous surprendrait pas, notamment sur un plan juridique, c'est-à-dire que le département avait signé une convention avec Joseph Lapiscirella, dans laquelle il s'engageait plus ou moins à préserver le musée en l'état. Donc le département n'était pas complètement à l'aise dans l'idée de refondre massivement le parcours muséographique. Donc ça nécessitait quand même d'avoir une évolution un peu en douceur, parce qu'il y avait quand même toujours cette crainte qui existait. Deuxième élément de contexte, le contexte mémoriel local. Hein. On l'a dit, la création du mémorial est aussi le fruit de cette histoire particulièrement compliquée et tendue entre Joseph Lapiscirella et les pionniers du Vercors. Et donc le mémorial s'est positionné sur des créneaux radicalement différents de ceux du musée originel, mais nécessairement en 2010, quand on envisage la refonte du parcours muséographique, on peut difficilement imaginer une évolution classique d'un musée de la première génération vers un musée de la deuxième génération. Pour un motif évident, c'est que le site de la deuxième génération, sur Vassieux, il existe déjà. Donc il faut aussi, dans l'approche muséographique, garder cette idée de complémentarité entre le musée et le mémorial. Et puis troisième élément important à avoir en tête, c'est presque un contexte un peu scientifique, c'est-à-dire que c'est l'intérêt qu'un certain nombre d'historiens, mais pas uniquement, d'autres scientifiques, et Gilles Vernion l'a rappelé, avaient pour ce musée de la première génération, qui était quasiment un des derniers musées de la première génération, sans doute un des plus emblématiques. Et certains considéraient que ce musée était tellement emblématique des musées de la première génération qu'il aurait presque fallu faire du musée un musée, pour dire, voilà, c'est un musée qui témoigne d'une époque révolue. Alors, ce qui était intellectuellement tout à fait séduisant, ce qui, en termes de médiation, un peu plus complexe. Donc, il a fallu quand même néanmoins intégrer cette dimension-là dans nos réflexions, sans évidemment renoncer à l'idée de faire évoluer le parcours muséographique. Donc, les parties prises ont déjà été rapidement évoquées. L'idée de remettre en contexte cette histoire locale, hein, qui démarrait, comme Gilles Vernion l'a rappelé, en janvier 1943 et qui se terminait en septembre 1944. Donc, une remise en perspective, le Vercors avant le Vercors, le maquis du Vercors et puis le Vercors après le Vercors, avec les questions mémorielles, la reconstruction, la question des commémorations. Donc c'est le premier axe fort. Deuxième axe fort, ça a également été rappelé, j'y reviens pas, les collections. Plus de 3000 pièces qui se trouvaient dans les collections du musée, qui était vraiment aussi l'identité de ce lieu, donc la volonté de garder le plus possible des collections et de continuer vraiment à s'appuyer sur les collections dans le nouveau parcours muséographique. Et puis troisième élément, la volonté de garder, de donner à voir le travail de Joseph Lapiscirella. Et donc vous avez dans le parcours muséographique un certain nombre d'éléments qui rappellent ce qu'a été le musée Lapiscirella, le musée privé. Vous avez notamment dans la deuxième salle tous ces panneaux chronologiques sur lesquels on retrouve la liste de toutes les victimes des combats avec les photos. On retrouve également une forme d'accumulation. Alors même si les choses sont maintenant bien davantage réfléchies, mais en tout cas l'accumulation d'objets, c'était aussi pour s'inscrire dans l'esprit de ce que Lapiscirella avait créé. Et puis en fin de parcours, la boucle se boucle, puisque vous avez donc une vidéo de Joseph Lapiscirella, tournée dans le musée quelques jours avant le début des travaux, où il témoigne à la fois de son engagement de résistant, mais également de tout le travail qu'il a conduit à la tête du musée de la Résistance. Et puis vous avez, dernière relique du parcours, la vitrine bleue, la vitrine Lapiscirella, voilà, qui est la vitrine support dans laquelle on évoque l'histoire du musée. Donc on donne à voir un peu cette histoire du musée de la Résistance. Donc ça, c'était vraiment une troisième volonté forte dans le parti pris muséographique. Rapidement, quel bilan aujourd'hui? Alors passé, les mécontents, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Globalement, on a quand même plutôt le sentiment que cette nouvelle muséographie a été plutôt bien perçue. On a une fréquentation qui est située entre les 25 et 30 000 visiteurs par an, ce qui reste grosso modo l'étiage d'avant-travaux. Donc on est quand même... il n'y a pas une chute de la fréquentation comme on aurait pu éventuellement le redouter. Parties pris muséographiques sont globalement plutôt bien compris. On apprécie toujours cette proximité à la fois avec les photos, mais également avec l'objet. C'est ce qui fait, voilà, il y a un foisonnement d'objets dans un espace très restreint. Mais globalement, le parti pris est plutôt compris.
S'agissant ensuite de l'accueil des scolaires, et on pourra peut-être laisser la parole à certains enseignants, le musée est quand même redevenu, pour tout dire, fréquentable pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'il est inutile de dire que l'ancien parcours muséographique avait ses fans inconditionnels, mais avait aussi quand même un certain nombre d'enseignants qui voyaient d'un assez mauvais œil les parties prises de Joseph Lapissirella. Et donc ce nouveau parcours a permis quand même de redonner un peu de crédibilité au discours. Et puis tout le travail qui est conduit par Céline, qui pilote la médiation au sein du musée, notamment en s'appuyant sur les objets, tout cela a permis quand même de se réinscrire dans un cadre un peu plus normal. Et puis également, Karine l'évoquait, la mise en place d'une programmation estivale, d'un certain nombre d'expositions temporaires à un rythme annuel. Tout cela nous a permis aussi de gagner un peu en crédit. Et pour certains égards, on partait un peu de loin, donc les choses ont plutôt bien évolué. Néanmoins, on peut faire sur le parcours actuel un certain nombre de critiques. Voilà. La muséographie est quand même relativement vieillissante. On sent qu'on a eu le parti pris de dire on redonne à voir les panneaux Lapissirella, non pas comme objet historique presque, et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de distance critique entre le visiteur et ces panneaux, c'est-à-dire que la plupart des visiteurs continuent à lire ces panneaux comme si ça faisait partie du parcours normal, alors qu'ils ont un statut un peu particulier, mais que la densité du parcours actuel ne permet pas d'expliciter. Pareil au niveau des collections, on est quand même sur des collections encore extrêmement denses, et toutes les collections sont mises sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'alors qu'il y a dans certaines vitrines des objets d'une valeur assez importante, on n'est pas en capacité de faire émerger les pièces un peu maîtresses de cette collection. Donc on est sur quelque chose qui gagnerait évidemment à être amélioré de ce point de vue-là, sans compter le fait qu'on accueille entre 25 et 30 000 visiteurs par an dans des espaces qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont quand même relativement modestes. On a très durement vécu l'épreuve du Covid, où il a fallu compter le nombre de visiteurs par mètre carré, ce qui a été quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles donc, le musée envisage désormais une nouvelle phase de rénovation dans un contexte évidemment désormais très différent. La rénovation, Damien terminera cette table ronde en l'évoquant. Et avant cela, peut-être que ce serait intéressant qu'on puisse échanger avec la salle. Je sais qu'il y a certains enseignants parmi vous, donc voilà, des témoignages que vous auriez à apporter sur... Thomas aussi, en tant que maire de Vassieux. Alors, tu n'as pas connu la belle époque, Jacques Roux, Joseph Lapissirella. Voilà, si aussi vous voulez intervenir les uns les autres, on vous écoute.
Je suis récemment arrivé à Vassieux en 2008. Et donc, moi, mon Lapissirella à moi s'appelait Pierre Dufilet. C'était il y a 15 ans. J'étais beaucoup plus jeune. Lui était encore un enfant. C'était un jour du mois de novembre. Il avait tubé et j'ai à la fois fait la découverte de ce qu'était la tube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce vent qui souffle quand il neige, puisqu'ici à Vassieux, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, donc avec des formations de congères importantes. Et l'ancien musée, je crois, était quand même assez bien exposé et donc les congères étaient assez importantes. Donc j'ai à la fois découvert son directeur, Pierre-Louis, les congères et aussi tout ce que l'on voit dans ce musée, qui est quand même un choc pour la première fois où on y rentre. Voilà, malgré tout, je suis resté à Vassieux, j'en suis aujourd'hui le maire, très fier de l'être. Après, c'est un statut particulier d'être le maire de Vassieux. On est à la fois le maire d'une commune rurale avec toutes les problématiques qu'on peut entendre dans les médias sur ce qu'est la vie d'un maire d'une commune rurale, mais il y a aussi ce statut extrêmement particulier de maire d'une commune compagnon de la Libération. Et ce qui amène aussi, alors à la fois une immense richesse dans la fonction d'élu, mais aussi une charge de travail assez importante. Mais pour revenir sur la dimension mémorielle, c'est vrai que c'est une chance incroyable pour une commune de notre taille. Hein, je le rappelle, on n'est que 330 habitants. On a une offre muséographique assez incroyable sur Vassieux pour une commune de cette taille. Alors j'ai appris dernièrement dans les cadres du travaux de l'extension du musée qu'il n'y a pas d'équivalent en France d'une commune avec une telle offre muséographique. Si vous y ajoutez le musée de la préhistoire au sud du village, et puis également le petit musée des Santons de Provence, je crois que c'est 5 à 7 000 visiteurs, hein, monsieur le directeur du musée. Voilà. Donc on a une offre voilà, vraiment très, très pléthorique. Voilà, c'est vrai que donc Jean-Michel l'a dit, c'est effectivement un acteur économique important. Moi, ce qui m'importe en tant que maire de cette commune et aussi par rapport à ce que ça représente, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire. La première, c'est que on sent quand même qu'il y a alors il y a une partie des habitants qui sont des fidèles du musée, mais qu'on sent quand même encore que le musée, il est au milieu du village, il fait partie du village, mais que les habitants ne se le sont pas totalement appropriés. Donc ça, c'est un souhait qu'on émet aussi dans le cadre du projet d'extension, que finalement, ces liens se renforcent. Mais si on va au-delà de la réflexion, c'est que ça interroge beaucoup sur, finalement, le regard que portent les habitants d'aujourd'hui sur cette période de l'histoire, comme si, quelque part, ça les dépassait un peu. Ils ont le même quotidien que n'importe quel Français, mais pourtant, ce village a cette histoire, et c'est important. Voilà, ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est que les liens aussi entre la commune et le musée sont évidemment bien plus apaisés que tout ce que vous avez décrit, qui, si je me permets quand même un petit regard, sont pas très dignes au regard de ce que finalement cette histoire était censée nous amener comme réflexion. Voilà, entendre des querelles telles que celles qui ont été rappelées autour d'une histoire aussi dure et difficile, finalement, on peut s'interroger finalement sur... Bah oui, j'ose dire le mot, la dignité de ces combats et de ces petites broutilles, c'était peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on est censé porter comme message. Sur le lien entre la commune et le musée, juste rappeler à titre d'exemple, on a travaillé avec Céline sur les victimes vassivennes. Elle m'a aidé aussi parce que, en fait, vous pourrez aller faire le comptage. Alors moi, j'aime bien compter, c'est peut-être un défaut que j'ai, mais je me suis amusé à compter les noms qu'il y avait sur le martyrologe à Vassieux, et vous lisez qu'il y a 76 noms. Voilà, et communément, on dit qu'il y a 73 victimes à Vassieux, et sur le décret qui nomme Vassieux compagnon de la libération, on parle de 72. Alors je ne sais pas quel est le 73e, en tout cas, grâce à Céline, on a trouvé les trois autres qui, effectivement, ne sont pas recensés comme victimes des événements de l'été. Et puis régulièrement, alors je le dis toujours un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est une réalité, je m'appuie souvent aussi sur Pierre-Louis, parce que je ne suis pas moi-même historien, et que lorsque j'ai besoin effectivement de valider certaines positions ou rappels historiques, je sais que je peux compter sur le musée, et Pierre-Louis et Céline, pour confronter ces éléments-là. Et puis juste pour conclure, ce qui m'intéresse moi en tant que maire de Vassieux, c'est la suite en fait, c'est une fois qu'on a fait, ceux qui viennent visiter ici, ils ont fait ce qu'on appelle le devoir de mémoire, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on y met derrière ? Et je crois qu'aujourd'hui, l'histoire nous rappelle qu'il faut faire beaucoup plus que le devoir de mémoire. Il est indispensable, c'est la première étape. Mais il y a vraiment un enjeu, et je crois que c'est aussi le rôle que nous, on a, les élus, aussi petits élus de communes rurales que nous sommes. Mais c'est sur ces questions du vivre ensemble, ce message que nous porte cette histoire-là. Donc le musée, oui, c'est le devoir de mémoire. Et nous, c'est aussi le devoir... d'être à la hauteur de cette histoire-là et d'être porteur d'un message un peu d'espérance, d'apaisement dans des sociétés où, tristement, me semble-t-il, là je reviens sur le fait que je ne suis pas historien, mais il me semble qu'il y ait quelques similitudes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec des périodes qu'on a connues. Ça m'interpelle sur cette nécessité d'aller bien au-delà du seul devoir de mémoire. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie satisfaction, un vrai plaisir, un honneur d'être maire de Vassieux, évidemment, et aussi de pouvoir s'appuyer sur des musées, des établissements comme le musée, également le mémorial, pour porter toute cette histoire de ce village.
Merci Thomas. Je ne sais pas s'il y a des enseignants qui souhaitent s'exprimer. Alors, des enseignants, d'anciens enseignants, parce qu'il y a aussi Alain Coustory, qui a peut-être bien alors qu'il est plus enseignant.
Alain Coustory, je suis interpellé de façon un peu brutale, je suis arrivé en retard, excusez-moi. Oui, à propos de ce musée, il y a un moment que j'y pensais, simplement un petit détail, une anecdote. J'étais en réunion pédagogique à Grenoble, avec d'autres collègues d'histoire géo, et j'ai eu une remarque qui pose bien, j'ai eu une remarque qui m'a fait mal un peu, qui pose bien le problème de, disons, de la valeur comparative du musée de Vassieux et du mémorial. J'ai quand même entendu un collègue d'histoire dire « Oh, je ne mènerai pas mes élèves au musée de Vassieux parce que ce n'est pas un musée. J'irai au mémorial. » Voilà. Ce qui me paraît totalement aberrant. Moi, je me place dans, disons, l'enseignant qui a visité le Vercors. Et encore récemment, on a conduit avec mes collègues qui sont ici... des élèves de seconde à Vassieux, et on a essayé de montrer que les deux établissements sont complémentaires, que le musée dit Lapicirella, j'ai connu aussi M. Lapicirella, on l'a beaucoup critiqué, je vous le dis franchement, vous le savez aussi bien que moi, on l'a beaucoup critiqué, mais s'il n'avait pas été là, le musée ne serait pas là. C'est aussi simple. Hein, voilà. Donc, je pense que les... Vous voyez, je passe déjà sur un plan plus général. Les deux établissements se complètent. Ici, quand vous menez des élèves, ils sont surpris par l'abondance, peut-être exagérée, je crois qu'il faudrait peut-être revenir un peu sur la muséographie, hein, des documents. Ils sont très nombreux. Plutôt, et quand on va au mémorial, ils sont un peu surpris par la forme. Mais les deux établissements sont remarquables et se complètent. Voilà ce que je voulais dire en tant qu'ancien enseignant qui amène des adultes ou des enfants ou des élèves. On a amené encore des élèves du lycée Triboulet de Romans il y a 15 jours et on leur a fait apprécier cela. Il y a aussi autre chose, c'est la nécropole. Où il y a... Et c'est un article du Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, l'article du Monde de Vercors, espace de résistance, dans le Monde du vendredi. Mmh. Et on a eu les images traditionnelles sur le Vercors. Et le journaliste n'a pas dû bien visiter la nécropole, parce qu'il était surpris par le fait qu'il y avait des morts de 17, 18, 19 ans. Je ne sais pas s'il a vu les morts des enfants blancs de 18 mois. Je crois que ce qui est quand même assez remarquable dans cette nécropole, c'est cette addition entre civil et militaire et inconnu. Pour revenir sur le Bassieux, il faudrait encore alléger un peu les collections. Je pense que dans ce qu'on a ici, on peut faire 2-3 musées sans problème.
Voilà, non. Merci Alain.
Excusez-moi.
Non, mais...
Donc je me présente, Olivier Hénoc, je suis professeur au Collège Paul Valéry de Valence, et donc j'ai des troisièmes, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, et puis Thomas également. Moi, c'est un regard un petit peu extérieur par rapport à vous tous, quasiment. Moi, j'arrive dans la région il y a une vingtaine d'années, j'arrive à Valence, et je suis un peu étonné que les élèves de troisième, à qui on va faire ce programme de la Deuxième Guerre mondiale, ne connaissent pas, pour l'immense majorité d'entre eux, le patrimoine local et le Vercors qui est juste à côté. Alors moi, je suis passé, il y a une vingtaine d'années, je suis passé au Musée de la Résistance, un peu plus même. Je vous rejoins sur ce bric-à-brac et je me pose la question, quand je deviens enseignant à Valence, comment transmettre ça à des élèves, à des collégiens de 14-15 ans, mais que ça reste, quoi, que ce soit pas juste du saupoudrage. J'ai entendu, vous parliez des bus, là, que le nombre hallucinant de bus qui arrivent, qui déposent les élèves, on l'a tous été, on est complètement excité, on profite de rien. Et donc l'idée m'est venue, il y a une quinzaine d'années, de faire ça à pied, donc sur les traces des maquisards, de faire aux élèves à peu près 100 km en une semaine, donc du lundi au vendredi, correspondant à peu près, malheureusement, à ce qui s'est passé aux événements tragiques du 21 au 27 juillet ici, dans les alentours. Et c'est vrai que l'approche, donc le premier jour, faire une approche géographique, parce que le Vercors, c'est aussi de la géographie particulière. Donc commencer par une randonnée de 25 km, du col de la Bataille, le plateau d'Ambelle, venir jusqu'ici. Et le lendemain, arriver justement sur ce site de Vassieux, par au-dessus, par la Gagère, pour bien comprendre. Et puis moi je trouve, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, que la complémentarité aujourd'hui entre les deux musées, elle est extraordinaire. En tout cas, si je me place au niveau de la compréhension des élèves, ils voient bien la différence. Ils comprennent ce que c'est qu'un musée, ils comprennent ce que c'est qu'un mémorial. Ils voient bien la complémentarité entre les deux. Ici, depuis que Céline a pris en charge les visites guidées, donc on est bien aidé aussi par le conseil départemental, les actions éducatives. Mais Cécile, elle fait un travail exceptionnel. Une visite de 2 heures, ça passe comme une lettre à la poste, alors que normalement, des collégiens de 14-15 ans, au bout d'une demi-heure, ils ont complètement décroché. On divise en 3. Il y a effectivement le travail intéressant qu'elle fait sur la fresque, qui n'est pas seulement l'explication d'une peinture qui ne veut pas dire grand-chose pour les élèves, mais la remise, remettre des visages. Et ça, c'est absolument génial, de remettre des visages, de ressortir des photos, l'histoire personnelle des gens d'ici remise dans le contexte et expliquant le... Et du coup, les élèves accrochent et finalement, ils retiennent beaucoup de choses. Et puis moi, je voudrais revenir aussi sur ce que disait Thomas. Donc nous, le deuxième jour, on vient là. La visite couplée du mémorial et du musée nous donne toutes les cartes pour comprendre après ce qui va se passer les jours suivants, donc dans cette semaine du mois de juillet 1944. Et nous, en naviguant après les autres jours à la grotte de la Luire, au mur des fusillés, Bah, on a déjà placé un peu tous les composants de cette triste tragédie, on va dire. Et pour la compréhension des élèves, c'est très très intéressant. De voir aussi les stèles un peu partout, au château, au hameau du château, dans le pré, en dessous. Là. Voilà, les élèves, ils comprennent tout ça, la lumière des explications du lycée. Donc moi, je trouve que l'évolution, et puis c'est pas pour vous faire plaisir, hein, l'évolution de cette muséographie, de ce regroupement entre les deux musées, elle est très très positive. En tout cas, si on se met au niveau de la compréhension des élèves de 15 ans. Voilà ce que je voulais apporter comme témoignage.
Merci. Donc, Madame, du coup, oui.
Donc, Carole Serre, je suis enseignante en CM1, CM2, donc à l'école Sainte-Marthe à Étoile-sur-Rhône, donc on redescend encore en âge. Donc les CM, en fait, c'est l'occasion, en fait, pour la première fois d'aborder le thème de la Seconde Guerre mondiale pour des enfants de 9-10 ans. Et donc, avant de venir donc, au musée de la Résistance, nous, on fait tout un travail avec le dessin animé des Grandes Vacances, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, on en regarde tous les jours. Hein. Moi, je fais mon travail d'histoire à partir de ce DVD. Donc les enfants sont vraiment en immersion totale dans la Seconde Guerre mondiale avec tous les thèmes que ça comporte. Et on arrive donc au musée de la Résistance avec Céline, donc du coup, qui nous présente les événements de Vassieux. Voilà, parce que souvent les enfants ne le connaissent pas. Donc à travers l'histoire de la fresque, la manipulation des objets qui intéresse forcément beaucoup les enfants de cet âge-là. On a eu aussi l'occasion à d'autres reprises de faire la visite hors les murs. Donc c'est aussi une autre façon d'appréhender les événements de Vassieux. Et aussi la visite de la nécropole. Donc pas toujours ça en même temps, mais à divers moments. C'est vrai, quand on a fait la visite de la nécropole, ils avaient été très, très marqués, en fait, parce que Céline les avait bien replacés dans le contexte. Et du coup, ils avaient déambulé à travers les tombes assez recueillies, en observant un petit peu les noms, les âges, etc. Ils avaient été marqués forcément par l'âge des enfants de la famille Blanc. Et du coup, ça avait été aussi l'occasion de parler aussi des tirailleurs sénégalais, etc. Et des choses dont les enfants n'avaient pas du tout conscience. C'était aussi l'occasion pour moi de redécouvrir la chanson Les Amis le chant des partisans, pardon. Donc voilà, que je connaissais pas tellement. Et du coup, c'est vrai que maintenant, à chaque fois qu'on revient au musée de la Résistance, les enfants ont appris ce chant. Ils l'apprennent avec beaucoup de plaisir, en fait. En tout cas, ils la chantent avec plaisir et ferveur. Donc on est vraiment sur une première approche, justement, de la Seconde Guerre mondiale, des événements, avant de le retrouver, justement, en troisième, quand ils seront au collège. Voilà, et un grand merci à Céline, voilà, pour tout ce qu'elle apporte. Voilà, merci.
Eh bien, merci. C'est donc Damien Henriot qui va donc terminer en évoquant les perspectives d'avenir dont on a parlé à plusieurs reprises.
Merci Pierre-Louis, bonjour à toutes et à tous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, y compris par les derniers intervenants, sur le rôle éducatif du musée aujourd'hui, hier et demain, évidemment. Je vais pas rentrer dans le détail de présentation d'un programme de rénovation, parce que ce programme, il est en gésine actuellement, il est en gestation. Donc je serais bien en peine de vous dire et de vous présenter le musée du futur, mais je vais plutôt partager avec vous quelques éléments d'intention et de réflexion qui nous traversent aujourd'hui. Et faire une petite incise personnelle pour ouvrir cette présentation. Je fais partie des victimes qui, dans leur prime jeunesse, ont eu à découvrir le musée. J'étais à l'époque en classe de CM2 et je garde, comme vous, monsieur, le souvenir assez traumatique du panneau. Alors, on n'entend pas. Du panneau avec les victimes suppliciées, dont je ne me souvenais même... Enfin, je suis sorti de là en ayant la perception du supplice et de l'horreur de la guerre, mais sans avoir perçu, je le dis très honnêtement, les enjeux et l'histoire du Vercors lui-même. C'est-à-dire que ces éléments-ci ont dépassé l'expérience du jeune enfant sur l'histoire locale. Mais ça marque. Et c'est mon premier souvenir de jeune visiteur de musée, tout court d'ailleurs. Bref. Le projet de rénovation sur lequel on travaille aujourd'hui, d'abord, il est rendu possible par plusieurs choses et plusieurs conditions. Il y en a au moins deux que je veux citer tout de suite. Ça paraît des évidences, mais c'est important de le rappeler. Projet de rénovation parce qu'il y a une volonté politique de déployer et de rénover le musée existant. Ça, c'est le premier motif. Et le deuxième motif, c'est celui aussi d'une opportunité qui a été saisie, et je voudrais le souligner, grâce au concours du maire de Vassieux, qui a été l'opportunité d'acquérir un bâtiment voisin du musée actuel, qui nous a aussi ouvert des perspectives et qui nous a permis de nous plonger dans un... Donc, premier élément de projection de ce que pourrait être un futur musée. La réponse tout de suite que j'ai envie de vous dire, c'est que, et je suis sidéré de voir qu'on peut accueillir, on pouvait accueillir 200 000 visiteurs dans ces espaces, c'est que ce qui a motivé l'achat de la maison dite à l'art, c'était précisément parce qu'on trouvait que c'était totalement saturé, les espaces actuels, avec nos 30 000 visiteurs, et que pour des raisons de sécurité, ça ne pouvait pas durer. Donc 200 000 visiteurs dans une surface moindre, je reste perplexe, vraiment perplexe. Donc, le premier diagnostic qu'on a fait en projetant ce développement du musée, c'était de se dire qu'il faut donner de l'air. Vous avez évoqué vous-même une forme de densité du propos, une densité de présentation des collections, mais qui fait aussi l'intérêt du projet, qui est un projet de transition. Et ce que je vais vous donner, donc, c'est quelques éléments de réflexion sur les éléments sur lesquels on se projette aujourd'hui pour ce futur musée, avec un objectif temporel de livraison qui est ambitieux, mais qui nous est assigné par nos élus, qui est d'avoir une livraison de l'ensemble pendant l'année 2027. Ça peut paraître beaucoup, c'est très peu, pour avoir une expérience moi-même d'avoir rénové, travaillé à des rénovations de musées. 4 ans, ce n'est pas énorme pour conduire un programme de rénovation d'un musée comme celui-ci avec les enjeux qu'on a abordés. Donc actuellement, on est dans les phases d'études, de diagnostic. On mène un travail appuyé par un cabinet d'experts et cette phase de diagnostic et de projection, elle alterne aussi des séquences où on a parfois des ateliers, des groupes de travail. On vient régulièrement rendre compte et échanger avec nos élus et on aura d'ailleurs des espaces de travail futurs et nouveaux, notamment un sous la forme d'un conseil scientifique qui est à constituer et qu'on va évidemment réunir parce qu'on voit bien que sur la base de la réflexion qui est la nôtre, il y a aussi besoin d'agréger des regards experts, que ce soit dans le champ de l'histoire, mais aussi dans le champ de la muséologie et du partage avec les publics de certaines questions. J'ai apprécié ce que vous disiez, M. Vergnon, sur le fait que, finalement, est-ce qu'on doit tout mettre en musée? C'est une vraie question. Est-ce que toutes les questions qui nous traversent, le devoir de mémoire, le travail d'histoire, l'histoire même de l'expérience mémorielle qui a été menée par Lapi Sirella et dont il témoigne, comment tout ça peut trouver une place dans un musée demain? Comment on va l'illustrer et le traiter? Ce sont des questions importantes sur lesquelles on n'a encore pas les réponses. Alors nos objectifs pour l'instant et nos intentions à travers ce grand projet de rénovation, il est de travailler sur le positionnement thématique du musée. On part du musée qui est la création d'un homme, Joseph Lapi Sirella, ancien maquisard, qui livre sa présentation et son récit du Vercors. L'idée, c'est de garder ce socle, qui est évidemment un socle très important, pour élargir le regard, prendre de la hauteur, de la distance, et se parler, finalement, de prolonger le premier essai de ce qui a été fait en 2010, c'est-à-dire de parler du Vercors avant le Vercors, mais en élargissant le prisme temporel, d'expliquer que ce territoire du Vercors explique aussi la configuration et la structuration des maquis, la forteresse, etc., mais que ce territoire se connecte avec la vallée, avec la Drôme, dans un environnement géographique qui est beaucoup plus large, et que si on veut faire de ce musée un espace de référence sur la résistance dans le Vercors, dans la Drôme et sur la Seconde Guerre mondiale d'une manière générale, il faut évidemment élargir le prisme et les approches. Donc le premier sujet, c'est de garder un ancrage sur ce qu'a été le musée d'origine, la résistance, le Vercors, l'histoire de la guerre en Drôme et au-delà, et de dézoomer en quelque sorte, si vous voulez, le propos pour avoir un regard et une mise en perspective par rapport au national et même à l'international. Il y a des dimensions aussi qui sont esquissées dans la version de 2010 qu'on va pousser, enfin qu'on souhaiterait pousser, qui nous semble intéressant de travailler davantage. C'est là où les reconstructions, comment on reconstruit un village, comment on se reconstruit après la guerre, et puis les entreprises mémorielles dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, et que ce serait intéressant vraiment de traiter dans le musée, c'est-à-dire comment se construit le récit mémoriel de l'histoire de la guerre dès l'après-guerre, avec une singularité dans le Vercors, c'est que c'est traité très tôt. Et M. Vergnon a parlé, je crois, de votre expression, c'est la citadelle de papier, il me semble. C'est-à-dire pour... C'est ça, hein, je crois. La citadelle de papier, c'est ça, pour illustrer le fait que dès l'après-guerre, il y a un phénomène aussi d'édition très rapide qui caractérise le Vercors et qui fait émerger le Vercors comme un sujet national, avec quasiment parfois un signe. On pourrait presque faire un signe égal dans le propos entre le Vercors et la résistance en France. Enfin, ça va assez loin, cette affaire. Et ce sujet-là mériterait aussi sans doute d'être partagé dans certains espaces du musée. Donc la question mémorielle, on souhaiterait aussi qu'elle soit présente. Le deuxième registre de réflexion qui est le nôtre, c'est celui de l'expérience qu'on va proposer aux visiteurs. Alors, on considère aujourd'hui que les visiteurs sont trop contraints dans l'espace. On aimerait donc, à l'appui de l'acquisition de la maison à l'art, en théorie, pouvoir doubler les surfaces disponibles au public. Ce doublement de surface, il doit permettre probablement de donner de l'air aux collections et de revisiter ce que Pierre-Louis indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de traitement assez uniforme des collections. Il y a deux types de présentations. En gros, dans le musée aujourd'hui, vous avez des boîtes verticales et puis les boîtes horizontales. Et tout ça, finalement, livre alors une approche un peu encyclopédiste de ce qu'a été la constitution d'un fonds par un ancien maquisard, mais qui a tendance un peu à niveler sans doute les objets, où on passe avec plus ou moins d'attention et plus ou moins d'indifférence à une sorte de relique un peu bizarre qui illustrerait un cabinet de curiosité, comme vous le disiez, sur le morceau de la table offerte par Mussolini à Hitler. On peut se demander la place dans un musée de la résistance à Vassieux aux objets iconiques de la résistance, les postes de radio, les mitraillettes Sten, les brassards, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc dans notre réflexion aujourd'hui, l'idée c'est de travailler, et on le fera à l'appui de scénographes et de muséographes, sur une autre manière d'approcher ces collections. Mais ce n'est pas uniquement une affaire de mise en scène à se dire, à certains moments, il y a des objets qu'on va traiter un peu comme des jocondes, où on va les placer tout seul dans un environnement très particulier pour faire comprendre aux visiteurs qu'il y a une valeur singulière, ou à l'inverse, de traiter des accumulations pour donner le sens d'un objet qui a la mitraillette Sten, par exemple, un objet multiple qui pourrait être traité en tant que tel. Ce n'est pas simplement ce sujet-là, c'est aussi pouvoir aborder, à travers les objets, la démarche du collectage, de celui qui acquiert les objets, gratuitement ou pas d'ailleurs, les enjeux de conservation de ces objets, et finalement partager avec les visiteurs le fait que le patrimoine, certes c'est un héritage, mais c'est aussi une constitution et une création, et qu'on peut recréer le patrimoine, on peut lui donner des vies et des expériences multiples. Les objets ont plusieurs vies. Moi je suis un fervent défenseur de l'idée que les objets sont porteurs de polysémie, c'est-à-dire qu'on peut leur faire dire et les faire parler dans plusieurs directions. Et c'est aussi ce qu'on voudrait travailler dans le cadre du projet de rénovation. Un des enjeux aussi, ce sera certainement d'articuler la rénovation d'un parcours permanent avec une programmation culturelle. Tout ne se joue pas et tout ne se jouera pas dans le fait qu'on va doubler les surfaces et proposer une muséographie refaite. Il faudra aussi faire, ce qui est déjà très bien fait, mais l'amplifier, c'est probablement le développer, faire une programmation qui va permettre de croiser les regards, le regard de la création contemporaine avec le regard de l'histoire, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'exposition sur les femmes en résistance. La programmation, elle doit aussi permettre d'ouvrir des portes et de créer des ouvertures que le socle d'un parcours permanent ne permet pas toujours. Donc c'est aussi ça notre ambition. Et puis il y a un troisième niveau qui va concerner, je dirais, la posture ou le positionnement du musée départemental. Qu'est-ce que ça veut dire, musée départemental? Alors là, on a des objectifs qui nous sont fixés par nos élus sur les publics cibles du département, que sont notamment les scolaires, on en a parlé. Aujourd'hui, le programme de la Seconde Guerre mondiale est aux classes de 3e. Les élus du département sont prêts à financer la venue de tous les collégiens de 3e du département chaque année au musée, sous forme de visite incontournable qui serait inscrite dans le cycle éducatif de tous les collégiens de 3e. C'est une première manière de traduire l'idée d'une ambition départementale. C'est parler à l'ensemble des Drômois. Il y a d'autres manières aussi de le faire, c'est de se déployer dans le musée, mais au-delà du musée. On a évoqué, madame, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de hors les murs. Je pense que c'était pour aborder le fait que le musée se déploie ici, mais qu'il est aussi l'occasion d'aller dans Vassieux, qui est un premier niveau de déploiement du musée hors de ses murs, pour comprendre un village, faire évidemment l'articulation avec le mémorial, mais la notion de hors les murs, elle peut se déployer sur une échelle encore plus large. On peut imaginer certains sites emblématiques du Vercors tout court et du Vercors drômois en particulier. On peut imaginer aussi des résonances qui peuvent être multiples, hein, numériques, sous forme de programmation, sous forme d'installation, avec d'autres sites qui sont des sites emblématiques de la Drôme et de la guerre et de la résistance en Drôme. Le dernier aspect, après je m'arrêterai parce que je suis très très bavard, je suis trop bavard, Pierre-Louis, tu m'excuseras, c'est l'enjeu partenarial. L'enjeu partenarial, on a évoqué le lien qui nous lie à la commune et le fait que si on se déploie hors les murs, ce sera évidemment en intelligence évidente avec la commune, mais aussi avec le mémorial qui est l'équipement voisin. Il y a sans doute beaucoup à faire pour renforcer nos complémentarités aujourd'hui. On pourrait programmer ensemble des activités et des actions. On pourrait, enfin, il y a plein de pistes envisageables. En tout cas, le champ des possibles est large et c'est là-dessus que je vais conclure.
Merci Damien. Oui, Alain.
Si j'ai bien compris, vous voulez élargir le musée de Vassieux au niveau de la Drôme, une des dimensions.
On veut inscrire ces éléments locaux dans un contexte en partant un peu de la micro-histoire.
Voilà. Je tiens quand même à vous signaler qu'il y a dans la Drôme un musée de la déportation qui couvre le territoire de la Drôme, c'est le musée de Romans. Or, oui, ça tombe, hein. Or, la municipalité a décidé de fermer ce musée. Et actuellement, je vous passe les détails, il y a un recours devant le tribunal administratif. Bon, je ne rentre pas dans... Est-ce que vous le saviez? Oui. Oui.
Oui.
Je vais le savoir. Deuxième chose, c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus positif. On est un peu en retard avec mes collègues parce que ce matin, on a visité un musée, le musée
Mathieu.
De Beaufort.
Beaufort-sur-Gervanne.
Mathias. Beaufort-sur-Gervanne, qui est un musée, disons, entre guillemets, familial, mais sans fait aussi par un jeune et surtout par son père. Ce qui fait que garde la Drôme. Si on regarde dans la Drôme, il y aurait un musée départemental, dès le départ, ce serait Romans, un musée plus local, plus régional, Vassieux, le Vercors, et un musée familial. On a une trilogie, je ne sais pas si dans beaucoup de départements, vous avez cette trilogie d'échelle. Alors, je ne sais pas comment va évoluer le musée de Vassieux, mais il serait dommage qu'ils prennent la place de celui de Romans qui est condamné.
Non, juste pour vous préciser, monsieur, donc évidemment, on est informé de la situation et on suit la situation, ça va de soi. Le musée de Vassieux, il ne se pensera pas tout seul. Et je ne voudrais pas, enfin, si je l'ai laissé entendre, je veux corriger ou préciser mon propos. À aucun moment, il n'y a dans la volonté du département l'idée de faire une OPA ou de venir pallier des situations dans lesquelles le département n'est pas impliqué. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'inscrire cette histoire dans une focale large pour comprendre les choses à l'échelle d'un territoire. D'accord ? Ensuite, voilà, on suit évidemment avec attention le devenir du site de Romans et celui de Beaufort-sur-Gervanne. Et on est évidemment ouvert, et c'est normal, aux échanges, aux dialogues avec les parties prenantes à chaque fois que c'est nécessaire.
Et dans l'élargissement de la focale qu'évoquait Damien, bien sûr, enfin, l'échelon départemental, qui sont Drômois ou Isérois, a un sens. Et réinscrire aussi cette histoire du Vercors, indépendamment même de l'avenir du musée de Romans, ça a aussi un sens, parce qu'effectivement, ça a une échelle départementale. Je crois que Gilles Bernier, vous l'avez écrit, qu'il y a un ensemble de choses qui doivent aussi être pensées, analysées, et après à l'échelle nationale et européenne. Donc voilà, il y a la pertinence de penser à l'échelle départementale, sans lien automatique avec l'avenir du musée de Romans. On en reste là pour cette table ronde. Encore un grand merci à tous les intervenants. Alors deux choses.